D'une langue à l'autre, glissement de sons, de sens et ressenti puissant d'un monde plus vaste que soi, d'un monde où il y a plus d'une langue, car nous sommes pluriels et différents et étrangers à soi et aux autres. Une langue, c'est toujours, souvent, parfois, l'inconnu.
Pascal Paradou.
Nous sommes aujourd'hui encore à Limoges pour la 39e édition du Festival de la création francophone Les Hébrures d'automne. Et cette édition se décline dans toutes les langues, ou plutôt avec toutes les langues. En 48 heures, j'ai entendu du créole, du bambara, du kinyarwanda, du québécois, et ce n'est que le début. Bonjour Maher Borois.
Bonjour.
Vous êtes musicien, est-ce que la musique est une langue en soi ?
Absolument, c'est une langue en soi, une langue qui relie les gens, une langue sans parole aussi. C'est les notes de musique qui comptent, c'est l'intensité, le sentiment qu'on y met aussi, qui crée un lien avec les musiciens avec lesquels on partage la musique sur scène, et puis aussi un lien qui se fait avec le public, qui nous accorde de son temps pour nous encourager à écouter ce qu'on fait.
Et c'est une langue écrite, mais aussi très orale.
Absolument, il y a deux façons d'apprendre la musique, il y a deux façons aussi de la transmettre par l'oralité. C'est une tradition aussi que j'ai beaucoup connue en Martinique, beaucoup de choses se transmettent de cette façon. Et puis j'ai connu une musique écrite, j'ai appris à écrire la musique aussi à l'école, quand j'arrive particulièrement ici dans l'Hexagone, au conservatoire, à l'université. Et je pense que c'est une force pour moi de pouvoir être à mi-chemin entre l'oralité et l'écriture.
Alors, on va faire une rapide présentation. Vous êtes pianiste, jazzman, mm-hmm. caribéen, créolophone. Qu'est-ce qu'on doit rajouter ?
Père de famille.
C'est important.
Ouais, très important.
Oui, quand on parle de transmission.
Pour moi, ouais.
Et vous faites un concert ce soir aux Hébrures d'automne à Limoges. On en parle, mais je dois d'abord saluer Dalila Boiteau-Mazodier. Comment dit-on bonjour en kinyarwanda ?
Alors, ça dépend de l'heure qu'il est, donc je regarde
en début
montre.
D'après-midi, il est quelle heure ?
Nous avons passé midi, Miliwe.
Miliwe. Vous parlez cette langue ?
Je ne la parle pas vraiment. J'aimerais la parler bien davantage. Je pense que j'entends sa musique. Et c'est une première entrée pour moi dans l'apprentissage d'une langue. Il me semble que c'est une langue assez complexe. Donc j'écoute pour l'instant les sonorités et les rythmes. Et j'ai travaillé dans le cadre de la pièce, oui, effectivement, certaines séquences en kinyarwanda.
Mais vous allez depuis très longtemps au Rwanda, depuis un peu plus de 10 ans. Vous avez d'ailleurs fait 3 spectacles sur l'histoire de ce pays, dont le dernier en date pour le jeune public qui s'appelle « Tout dépend du nombre de vaches ». Est-ce que quand vous êtes au Rwanda, parlez un peu kinyarwanda est important ou le français suffit ?
Non, il faut parler un peu kinyarwanda. Il faut s'offrir cet espace de la rencontre, même si c'est un espace dans lequel on se comprend moins, dans lequel il n'y a pas cette facilité-là. Mais ça demande du coup l'effort de fabriquer un autre langage à cheval, en fait, entre ces différentes langues et cette friction. Et donc une forme de créolisation aussi des mots qui s'opèrent.
Tout dépend du nombre de vaches, c'est le titre de votre spectacle, un peu mystérieux. Pouvant être drôle et en même temps ça cache une tragédie qui puise son origine dans la colonisation.
Tout à fait, c'est-à-dire quand les colons s'installent, ils ont donc décidé, vous le savez, d'inventer ce mot ethnie. On parle de langue, par exemple, dans la langue kinyarwanda, le mot ethnie n'existe pas. C'est une invention. Donc, on a un mot qui s'en approche, qui est plutôt clan. Mais là, voilà, la langue française vient demander à ce que ce mot ethnie s'impose dans un pays où tout le monde a le même dieu, la même culture, la même langue. Donc, à proprement parler, pas d'ethnie, en fait. Et donc, ils décident de séparer les Hutus et les Tutsis. Mais comme c'était pas vraiment le problème des Rwandais jusque-là, évidemment, il y a tout un travail de déconstruction de l'histoire sociale qui va faire qu'ils vont se mettre à compter le nombre de vaches quand ils n'arrivent pas à dire, selon des critères de classification anthropométrique absolument sordides, qui est Hutu, qui est Tutsi. Quand ça devient compliqué parce que les gens se sont mariés entre eux, ont eu des enfants issus d'une union mixte, etc., ils vont compter les vaches, partant du principe que traditionnellement, les Tutsis sont des éleveurs. Si vous avez plus de 10 vaches, vous êtes êtes Tutsi. Si vous en avez moins, vous êtes considéré comme Hutu. Et effectivement, vous avez raison, ça pourrait nous faire sourire, mais pas quand on sait ce que ça provoque après, avant et pendant le génocide de 94.
Alors, on va reparler bien évidemment de votre spectacle, mais la colonisation et son héritage, c'est une question qui est aussi au cœur de Insula, votre concert, spectacle, Maher Borroi, vous mettez en musique des textes de Frantz Fanon, qui est donc votre compatriote martiniquais. Quelle a été l'idée de départ? Parce que ce n'est pas usuel, ce n'est pas habituel chez vous, musicien.
C'est la première fois que je travaille avec des textes déclamés. Alors le but de la genèse de ce projet vient à l'université, à Paris 4, Sorbonne, quand je rencontre un camarade de classe qui est algérien, qui est guitariste, oudiste, et on se retrouve dans la même promo, première année de musicologie, et on se capte très vite par le faciès, quoi. On est des deux seules bases années de cette promo, et on se voit et on devient copains, on commence à discuter, je lui raconte un peu ma vie, mon passé musical, et lui aussi. Et très vite, Frantz Fanon vient dans la conversation, parce que pour lui, c'est dans sa tradition familiale, Frantz Fanon est un héros, littéralement. Et en Martinique aussi, il représente beaucoup de choses, pour nous, Martiniquais et Antillais, en général. Et on commence à écrire de la musique, à devenir copains aussi. Et le départ, c'était de mélanger juste des traditions antillaises, caribéennes et algéroises, puisqu'il vient d'Alger.
Et donc, et que Frantz Fanon se revendiquait comme citoyen algérien.
Absolument.
Il a fait le pont justement entre l'Europe, le monde arabe et les Caraïbes.
Exactement.
C'est un montage de textes où vous avez pris un des textes de Frantz Fanon, je pense à Peau Noire, Masque Blanc.
Oui, tout à fait. C'est un corpus qui rassemble Peau Noire, Masque Blanc, l'enceinte de la Révolution algérienne ou encore Les Damnés de la Terre. Donc on a, avec Florence Baudin, qui est l'artiste qui déclame les textes, avec un homme aussi expert en la matière en Martinique, qui s'appelle Victor Permal, et moi-même, on choisit les textes qui nous semblent les plus percutants et puis qui pourraient aussi se marier avec la musique.
Musique qui est, vous connaissant un peu, mais pas si bien que ça, très mêlée déjà. Votre musique est sous influence au pluriel.
Bien sûr. La musique antillaise, par essence, est une fusion de plein de choses. C'est une musique afrodescendante, c'est une musique aussi teintée de culture européenne et états-unienne. Donc nous sommes déjà dans un mélange. Et puis j'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis le jazz, donc il y a plein d'influences comme ça qui effectivement se retrouvent dans ma musique. Et donc on est en un deuxième stade de mélange quand on fait fusionner deux expressions artistiques qui est la déclamation et la musique.
Insula, c'est le titre de votre album et de votre spectacle. Et Insula, j'imagine que c'est l'île de la Martinique.
Alors ça veut dire île en latin, mais ça fait référence évidemment à la Martinique et aussi à Al-Jazair, qui veut dire île en arabe, et c'est le nom traditionnel de l'Algérie.
Pas à l'idée de demander à ces nègres de corriger la conception qu'ils se font de l'histoire. D'ailleurs, nous sommes persuadés que, sans le savoir, ils entrent dans nos vues, habitués qu'ils sont à parler et à penser en termes de présent. La découverte de l'existence d'une civilisation nègre au XVe siècle ne me décerne pas, un brevet d'humanité. Qu'on le veuille ou non, le passé ne peut en aucune façon me guider dans l'actualité. Le noir, à certains moments, est enfermé dans son corps.
Insula, titre de votre album Herbe au Roi et de votre spectacle que vous donnez ce soir au Festival des Hébreux d'automne à Limoges. Je vous laisse nous raconter un peu cet extrait. C'est un extrait de quel texte de Frantz Fanon ?
C'est un extrait des Damnés de la Terre. Damnés de la Terre, et ici, Frantz Fanon s'interroge et nous interroge aussi sur que doit-on faire du passé, jusqu'à quand il peut nous influencer dans notre présent. Et j'ai trouvé ce texte intéressant, pas parce que je suis particulièrement d'accord avec ce qu'il dit, mais en tout cas parce que justement il interroge, et que sans cesse, en tout cas c'est ce qu'il représente pour moi, c'est de m'interroger sans cesse sur le monde qui m'entoure. Et je trouve que ce passage-là est très parlant sur ça. Il nous fait un petit peu cogiter.
Et la place du passé, c'est absolument essentiel aujourd'hui, dans notre présent, parce qu'on rappelle toujours le passé à raison, souvent, à tort parfois.
Mmh. C'est essentiel pour moi de se rappeler d'où l'on vient. Voilà, parce que ça nous permet évidemment d'être plus clairvoyant et plus conscient de ce qu'on vit aujourd'hui. Et la colonisation et ses horreurs. Alors, il y a l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité. La colonisation devrait être aussi un crime reconnu contre l'humanité, parce que ça a conditionné tellement de choses et de déconstruction de culture. Et aujourd'hui, on voit encore les effets de cela, que ça soit dans les mentalités ou même dans le système des nations. La colonisation est omniprésente. Elle est vraiment au cœur du système.
Et vous l'avez constaté, vous aussi, Dalila, la colonisation au Rwanda, qui est le territoire sur lequel vous travaillez, est très présente.
Elle a été très présente puisqu'elle a été jusqu'au paroxysme du génocide, puisque tout se fomente à partir de cette vision occidentale imposée dans ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Mais aujourd'hui, elle l'est moins parce que du coup, le Rwanda est aussi un pays qui fait fi de ça et qui tente de s'en libérer et de s'en dégager. Elle est peut-être du coup moins présente aujourd'hui que dans d'autres pays colonisés, puisque le Rwanda prend avec beaucoup de noblesse sa revanche en fait sur l'histoire aussi par rapport à ça. Cela dit, toute cette histoire du passé est à enseigner encore aujourd'hui, et la question de la transmission de d'où on vient, comme vous venez de le dire, est très importante, y compris aujourd'hui, 28 ans après le génocide, pour des enfants qui n'étaient pas nés. Et puisqu'on parlait de langue et que vous venez d'évoquer le rapport entre le passé et le présent, en Kinyarwanda, quand on connaît l'histoire du pays, il y a quelque chose d'assez déroutant. Ils n'ont qu'un seul mot pour dire « hier et demain ». On dit « ejo ». Et « ejo », ça veut dire « hier et demain », et on comprend s'il s'agit du passé ou du futur avec la conjugaison du verbe et évidemment le sens de la phrase. Et c'est assez incroyable, ce mot-là, dans cette histoire-là.
Et ça change en effet toute la perception du temps et du monde. Donc.
Complètement.
Parler la langue de l'autre ou sa propre langue dans un pays étranger, c'est un décentrement toujours, voire parfois un choc, mais au sens positif du terme. C'est le cas avec votre spectacle, Dalila, c'est aussi le cas avec Tafé Fanga, de l'autrice et comédienne malienne Jeanne Diama, spectacle qui a fait l'ouverture du festival avec quatre comédiennes formidables qui ont pris la parole pour dire la pression et les violences exercées dans leur vie, sur leur corps, par les hommes, mais plus largement par la société patriarcale, par la famille. Et tout cela en français dans le texte et en bambara.
Tafé Fanga, ça veut dire « pouvoir du pagne ». Et dans le titre, il y a un point d'interrogation. Donc on interroge cette phrase-là qui est dite aux jeunes femmes, aux jeunes filles depuis qu'elles sont bas âge pour les préparer à la vie de femme. On leur dit que le pouvoir a du pagne. Donc nous, on interroge justement le pouvoir qu'a ce pagne-là.
C'est un texte très engagé, très fort. Pourquoi avoir décidé d'écrire sur ce thème-là, sur cet engagement ? Est-ce que c'est l'influence de MeToo ou c'est des raisons plus internes à la société malienne ?
J'écris que sur des thèmes concernant les femmes. Mais pour Tafé Fanga, l'urgence était là parce qu'il y avait beaucoup de cas de féminicide qui étaient beaucoup relatés dans les journaux, mais il n'y avait pas, à mon avis, assez d'artistes du côté du théâtre qui faisait de ces sujets-là une urgence. Donc à un moment donné, j'ai réuni les femmes, j'ai posé des questions et j'ai demandé, est-ce que vous voulez me suivre sur cette question-là? Est-ce que vous voulez que j'écrive quelque chose avec nos propres vécus, nos expériences? Elles ont dit oui. Donc je me suis dit, ok, allons-y.
Les paroles des sages nous enseignent que nous, les femmes, sommes les piliers du foyer. Et on a ma
Pour moi, le plus important, c'était entendre les femmes me dire. Et j'ai choisi les femmes autour de moi. Et j'ai fait une belle découverte parce que je ne savais même pas la moitié des violences qu'elles vivaient au quotidien. Donc, on peut dire que vous avez la vraie vie de beaucoup de femmes maliennes, ivoiriennes, françaises même sur la scène.
C'est terrible, c'est très violent.
C'est extrêmement violent, surtout quand, comme les comédiennes le disent, on t'apprend très tôt à supporter ce qui va arriver. Tu ne sais pas ce qui va arriver, mais on te dit quand même que tu devras supporter. Donc c'est vraiment terrible. On n'a pas le système nécessaire pour éradiquer tout ça. Donc on se bat à notre niveau. En tout cas, c'est ce que fait Angie Guihard. C'est très violent, même quand on fait des spectacles devant le public. Nous, en fait, on fait face beaucoup à des réactions très hostiles.
Ça t'arrive de vouloir taper dans tes boules? J'imagine que ça doit faire mal, n'est-ce pas? Parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir des boules rien qu'une journée. Mais en gros, ça pèse ou pas?
On nous traite en tout cas comme des révolutionnaires. On veut mettre beaucoup de choses dans la tête des jeunes femmes, des jeunes filles. On nous dit presque, est-ce qu'elles vous ont dit qu'elles sont malheureuses comme ça? Donc c'est quoi votre problème à vous? Et donc c'est très violent, mais je pense que ça répond justement à la violence à laquelle on fait face tous les jours.
Le spectacle est en français et en bambara. Pourquoi?
Déjà, quand j'écris, je réfléchis beaucoup en bambara. C'est comme ça, parce que les situations que je vis, ce que j'entends autour de moi, c'est en bambara, donc je réfléchis en bambara. Mais pour moi, c'est important aussi que le public entende la langue de chez moi. Ma langue comme autrice, mais aussi la langue que je parle, la langue dans laquelle j'ai réfléchi le texte. Et aussi, surtout, qu'il y a beaucoup de petites choses qui, traduites en français, perdent un peu de leur beauté, leur pouvoir, comme les insultes. On ne sait jamais trop comment traduire les insultes, en fait. Alors que quand la personne le dit en bambara, on sent tout le pouvoir qu'a cette insulte-là. Et donc, on se dit, ben, on garde ça comme ça. Et je pense qu'on donne quelque chose au public étranger aussi, c'est d'entendre ces langues-là, parce qu'il y en avait deux. Il y a le Mossi qui est du Burkina, le Bambara du Mali, et qui est parlé ailleurs d'ailleurs. Mais je pense que c'est très intéressant pour le public d'entendre une langue d'ailleurs. Et la langue s'accompagne aussi de gestuels, de mimiques. Le texte est d'abord pour les femmes maliennes. C'est à partir de là qu'on est quand même parti. On avait envie de porter la voix de beaucoup de maliennes, de porter la voix des femmes qui sont vraiment très éloignées des capitales, qui vivent vraiment des choses horribles. C'est même pas descriptible, en fait. Donc, on a vraiment envie que, même si on va jouer dans un endroit où il y a un public mixte, même à Bamako, si le spectacle est en français, que le public, il est quand même un minimum en bambara. Comme ça, il sait vraiment se situer.
Vous êtes une révolutionnaire, Jeanne Diama.
Je dirais que les femmes d'Angie Guihard sont des révolutionnaires, oui. Je fais partie d'Angie Guihard, donc on va dire oui.
Au nom de toutes celles insultées parce qu'elles n'ont pas pu accoucher par voix basse, traitées de salopes parce qu'elles ont une vie sexuelle épanouie, qui disent non à l'excision, qui disent non au mariage précoce, qui disent non à toute violence basée sur le genre. C'est le genre de femme forte, indépendante, intelligente, tête rasée, perruquée, tressée, tellement respectueuse, souvent trop, oh combien, mais malgré tout reste forte. La dignité debout, le courage debout, la féminité debout, le sexe debout.
Hey, Tafé Fanga, présenté donc ici au festival Les Hébrures d'automne à Limoges, et ensuite au Mali. Mesdames et messieurs, il faut entendre ce que dit Jeanne Diama. De l'importance de se parler, de se comprendre, votre spectacle Dalila Boiteau-Mazaudier fait aussi ce pari. Il raconte au départ, on va tout raconter, mais quand même deux, trois petites choses, l'histoire de deux enfants, l'un Hutu, l'autre Tutsi, et il tente de raconter ce génocide finalement aux petits Français, parce que c'est un spectacle jeunesse, et ça c'est très important.
C'est-à-dire que depuis ces 10 années, on en était arrivé à la nécessité de raconter cette histoire à des enfants qui donc évidemment n'étaient pas nés en 1994 et vivent à 8000 kilomètres de ce petit pays d'Afrique des Grands Lacs. En France aujourd'hui, vous pouvez aisément aller jusqu'à la deuxième année d'université sans jamais avoir entendu parler du génocide des Tutsis du Rwanda. Donc il y a un vrai manque là-dessus. Et moi, j'avais envie d'être honnête avec les enfants aussi, de leur dire aussi à quel endroit l'humanité défaille et comment ils peuvent, eux, s'emparer de cette histoire aussi. Donc oui, c'était le pari, en tout cas, raconter cette histoire à des enfants, mais avec leurs parents, pour qu'ensuite le théâtre s'arrête et la proposition continue à l'intérieur de la famille, en fait.
Alors, on va raconter un peu, je sais qu'il y a un effet de surprise que vous ne voulez pas qu'on dévoile, mais je trouve que c'est important. Tout le public arrive dans une cour d'école, et quand on est tous là réunis, vous allez diviser en deux les groupes, séparer les enfants des parents, et chaque groupe en fait va avoir un spectacle différent, mais on fait en tant que spectateur l'expérience de la séparation. Ce qui est le cœur de ce qu'aura été le génocide rwandais.
Exactement. On propose aux enfants d'écouter l'histoire d'un petit garçon qui, tout à coup, est sans sa famille. Donc les enfants sont dans l'expérience physique et émotionnelle de ça également. Et aux adultes, on raconte les terribles moments de l'histoire où les séparations, malheureusement, ont été définitives. Et on propose vraiment, c'est pas conceptuel en fait, on avait vraiment envie que les choses elles soient vécues dans cette intériorité-là. Voilà, parce que le théâtre, et dans l'espace public encore plus, permet qu'on aille jusque-là dans cette réalité. Mais il y a aussi quelque chose du langage théâtral, on parle des langues depuis tout à l'heure, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que le français au Rwanda en 94 et le Kinyarwanda au Rwanda en 94 est une langue qui a tué à bien des égards. Un génocide, c'est d'abord ça. On tue la langue. Est-ce que les mots disent d'ordinaire deviennent eux-mêmes des machettes. Et du coup, être capable de réinventer un langage théâtral qui revient chercher à la source ces mots et qui nous dit « ils nous ont pas tout pris ». On doit être capable encore de cette beauté des langues. Ça, on ne peut pas leur avoir laissé. C'est important. Et c'était aussi pour ça l'envie de s'adresser à des enfants. Comment on compte au sens vraiment compter, raconter et reprendre en fait la beauté des mots.
Et vous êtes à la fois dans la pédagogie, parce qu'il y a un petit côté leçon, vous êtes un peu l'institutrice ou la prof derrière un bureau avec un tableau noir, et puis vous distribuez au public des crayons, des cahiers, et puis vous êtes aussi dans l'émotion, dans le récit de toutes petites choses, avec des jouets d'enfants, des vaches, puisqu'il faut compter les vaches, et comme ça, par expérience successive et par récit juxtaposé, vous nous rendez sensibles et le génocide et ses traces.
Ah mais notre colline, ce n'est pas chez moi. Moi, j'habite chez ma tante qui m'a recueillie. Elle m'a dit que mes parents habitaient une belle maison dans un beau quartier à Kigali. Ma tante a une photo. Et sur la photo, ils sont tous très beaux. Ils ont l'air très heureux. Non, ce qui est malheureux, c'est que moi, je ne me souviens de rien, ni de personne. Tous les soirs, avant de m'endormir, je regarde la photo et je cherche le visage de mon père, sa voix, le sourire de ma mère. Où est-ce que je dormais? À quoi jouaient mes frères et sœurs? La dernière fois, j'ai dit à ma tante, « Écoute, tantine, j'ai compris ce que c'était un génocide. » Elle a eu l'air surprise. « Alors, vas-y, dis-moi, c'est quoi un génocide pour toi ?» J'ai dit, « Un génocide ?» C'est quelque chose de monstrueux. Il t'obstrue la mémoire. Il t'empêche de te souvenir. Un génocide, C'est quelque chose qui te prend tout. Ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ta maison, tes grands-parents, tout le monde. Comme dans un déluge. Voilà. Génocide. Ninki tukibi. Ikwamboka uta shokuibuka.
Tout dépend du nombre de vaches, Dalila Boiteau-Mazaudier. C'est donc une succession de récits souvent intimes qui rendent sensible le génocide et qui sont souvent des extraits de mémoires ou de livres écrits par des Rwandais. Ce n'est pas que votre invention, entre guillemets.
Non, pour moi, c'était effectivement très important qu'on entende la parole de celles et ceux qui l'ont vécu et qui ont eu le courage d'écrire ensuite leur récit pour que ce moment existe, en fait, 28 ans après, que cette mémoire fasse incursion dans notre présent. Et à chaque fois que j'attrape ces ouvrages, je suis saisie par ce fait-là, c'est-à-dire que tous ces survivants ont écrit en français. Comme si,
dans la langue qui a tué.
Dans la langue qui a tué, mais dans la langue qui aussi vient jusqu'à nous aujourd'hui. S'ils avaient tous écrit en Kinyarwanda, ben, qui pourrait les lire, les gens qui parlent Kinyarwanda? Or, aujourd'hui, ça permet vraiment à ces témoignages, et je pense qu'il y a une vraie volonté de travail de mémoire, que de dire quelle langue on peut chevaucher pour que ça passe les frontières et que ça nous survive et que ça continue.
Mais ce qui est important, et on l'a entendu dans cet extrait, c'est qu'il y a dans le spectacle des mots en Kinyarwanda. Alors, ce n'est pas comme avec le spectacle de Jeanne Yama, des tirades entières ou des scènes entières, mais ce sont des mots qui viennent grêler, en fait, le spectacle. C'était essentiel pour vous de faire entendre, de rééquilibrer finalement des choses entre ces deux langues.
Complètement. Des mots et, comme on en parlait au tout début, des musiques aussi, comme on vient de l'entendre. Parce que, oui, parce que c'est important aussi qu'on accueille quelque chose qu'on comprend par l'émotion et par la rythmique et la musicalité et pas forcément par des concepts entendus qui fabriquent souvent des certitudes. Ça permet quand même de donner un voile et de se mettre dans une autre position, dans un rapport aux propos qui nous appartient plus, qu'on maîtrise pas, qui vient nous chercher à un autre endroit en fait que celui du j'ai tout compris, je sais. On sait pas en fait cette histoire-là.
Et c'est toujours formidable, je trouve, d'entendre des choses inconnues, incompréhensibles, d'avoir de l'obscurité dans les paroles, dans les spectacles, dans la perception du monde. Rien n'est jamais clair.
Oui, et puis c'est intéressant qu'on soit aussi capable dans une proposition d'être en retrait, c'est-à-dire il y a ce qui peut devenir mien et ce qui ne m'appartient pas. Cette distance, elle est fondamentale.
Merci Dalila Boiteau-Mazaudier. Tout dépend du nombre de vaches à voir donc au Festival Zébrure d'automne. Et ce soir, concert à l'Opéra de Limoges, Insula, avec vous, Maher Borois. Et il faut rajouter qu'une rencontre est prévue vendredi sur l'importance du mouvement de la créolité, avec notamment Yannick Lahens et l'historien Johan Monga. Est-ce que c'est un de vos combats aussi que de faire reconnaître ou apparaître cette culture créole?
La culture créole est à ce point centrale dans ma personne qu'en fait, ce sont des questions que je ne me pose pas vraiment. J'écris des chansons aussi, à côté de ce projet Insula. Je suis auteur aussi, et donc chanter en créole est de l'ordre de l'instinct et du réflexe. Je crois que je chante rien aussi bien que le créole. Donc, mais avec un peu plus de recul, avec Insula, effectivement, le créole, bien que les textes soient déclamés en français, puisque tout est écrit en français, Fanon est écrit en français, en tout cas ses premiers écrits, le créole, dans ma musique, est omniprésent et le restera pour toujours.
La prochaine fois, je vous fais chanter.
Avec plaisir.
Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradou, avec Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. Et on se retrouve demain aux Zébrures, signé Z.